Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est à mes côtés en direct lui aussi, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Ce serait bizarre d'ailleurs si moi j'étais en direct, vous, je
oui,
sais pas.
Oui, vaut mieux que je sois aussi en direct.
C'est bien, on est ensemble. Allez, dans notre grand dossier du jour aujourd'hui, on va se tourner du côté de nos émotions, notamment les négatives, l'angoisse, la culpabilité, la tristesse, la colère ou encore la jalousie. Elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi nous détruire ou détruire les autres. Alors cet après-midi, on vous propose de faire face à la toxicité émotionnelle avec un programme d'autogestion des émotions, avec des exercices pratiques. On va se tourner ensemble vers l'optimisme et pour nous guider dans cette voie, notre invité, ce sera le docteur Jean Cottreau. Il est psychiatre et l'auteur du livre « Sortir des émotions négatives » aux éditions Odile Jacob. Ensuite, dans notre séquence « Les bobos du quotidien », on vous dira tout sur les tiques, ces bestioles très actives au printemps. Elles peuvent nous transmettre des maladies comme la maladie de Lyme. Elles sont souvent invalidantes. Le docteur Jimmy Mohamed nous expliquera comment s'en protéger. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme enceinte qui se pose pas mal de questions sur sa sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer aujourd'hui par cette question de Baptiste. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, je vous appelle parce que j'ai des bourdonnements dans les oreilles depuis quelques semaines. Alors, je pensais que ça allait passer avec le temps, mais non, du tout. Hein. Ça persiste, ça siffle et c'est même voire insupportable, et surtout la nuit. Pourtant, j'écoute pas la musique très forte. Alors, comment que je peux faire pour que ça s'arrête? Voilà, donc j'attends votre tour. Au revoir.
Voilà, c'est pour vous répondre avec précision. On a interrogé le docteur Patrick Folcon. Il est ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On l'écoute.
Alors Baptiste, il va falloir probablement aller consulter un spécialiste ORL pour faire le point sur ses acouphènes et savoir exactement quelle est la source exacte de ses problèmes acouphéniques, notamment rechercher un début de vieillissement des oreilles ou un problème de trompe de Stache. Les sifflements peuvent être liés à une fragilité de l'oreille interne qui peut commencer même jeune, même sans exposition sonore importante. Ça peut être lié aussi à d'éventuels problèmes d'hypertension artérielle qui peuvent donner des acouphènes, ou bien un problème de ventilation des oreilles. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment ne pas hésiter à aller consulter, faire une consultation spécialisée.
Voilà, c'était le docteur Folcon au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est Christiane qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour, j'ai 70 ans, je suis tombée il y a 3 semaines sur la poitrine et sur l'épaule. J'ai eu une rupture du tendon. Suite à une échographie, on m'avait parlé d'opération, ça me fait très peur. Est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives pour pouvoir récupérer mon épaule qui est en plus très douloureuse? Je vous remercie.
Alors Jimmy, d'abord, on apprend finalement qu'on peut se déchirer donc des tendons partout dans le corps, même dans l'épaule. Ça sert à quoi les tendons? Rappelez-nous juste un peu de physiologie, on va dire.
Alors les tendons, c'est des espèces de bandes de fibres de collagène qui vont relier un muscle à un os, à la différence des ligaments qui, eux, vont relier deux os à une articulation, comme par exemple les ligaments croisés que vous avez au niveau de votre genou. Alors, les tendons, on les connaît, celui que vous pouvez palper vous-même, c'est le tendon d'Achille, que vous avez juste au-dessus du talon, et vous sentez une structure un peu puissante, hein, puisque finalement les tendons ils vont être très résistants, ils vont transmettre la force créée par la contraction musculaire au squelette pour permettre le mouvement. Et donc, les tendons peuvent se déchirer, en particulier en cas de chute.
Et donc là, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'on propose parfois des opérations pour les réparer. Là, on lui a proposé donc à Christiane au niveau de l'épaule, mais on fait quoi concrètement pour opérer un tendon déchiré?
Alors, en temps normal, les tendons, ils sont à la fois très résistants, mais aussi très élastiques, justement, pour éviter de s'abîmer. Mais on sait qu'avec l'âge, ils peuvent se rompre et s'abîmer. D'autant plus qu'à partir de 80 ans, on a 50% des personnes âgées qui vont avoir une rupture tendineuse sans traumatisme. En plus de ça, c'est un message de prévention, le tabac va aggraver une éventuelle rupture tendineuse, puisque ça va boucher les petites artères justement qui sont censées irriguer l'épaule.
D'accord.
Et on sait que lorsque la rupture est complète, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus aucune fibre musculaire, comme si on avait coupé un élastique, eh bien on est obligé de resuturer en quelque sorte sous arthroscopie. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'anesthésie générale. On passe un petit appareil qui s'appelle un arthroscope dans l'épaule. Le chirurgien va venir nettoyer la structure et suturer le muscle à l'os qui a été coupé, qui a été sectionné. Et en règle générale, on fait ça en ambulatoire. on n'est pas forcément hospitalisé.
D'accord. Et donc, Christiane, elle s'inquiète parce qu'elle dit « J'ai 70 ans, je suis un peu inquiète de cette intervention. » On comprend, avant chaque intervention, il peut y avoir un peu d'angoisse. C'est vraiment recommandé d'opérer à cet âge-là. J'imagine que si on lui a proposé, on a pesé le pour et le contre. De toute façon, pour toute opération, ce n'est pas tellement l'âge qui compte, c'est l'état général de la patiente.
Évidemment, 70 ans, 80 ans, même 85 ans,
des gens
si vous êtes autonome et que vous vivez votre vie, et puis même si vous n'avez pas beaucoup d'autonomie, il n'y a pas de raison qu'on ne vous prenne pas en charge. D'autant plus que l'épaule, eh bien, ça fait partie du membre qui est souvent dominant. Donc, plus d'épaule, perte de mobilité. Et lorsque vous avez une rupture tendineuse, si vous laissez évoluer telle quelle, eh bien forcément, vous allez perdre de la force musculaire, vous allez perdre de la mobilité, ça va entraîner de la raideur et donc des souffrances sur le long terme.
Donc ça vaut
moi,
vraiment
je vous invite
le coup, bah oui.
à discuter avec un chirurgien orthopédique, car toutes les ruptures tendineuses ne s'opèrent pas. Certaines peuvent s'améliorer quasiment spontanément avec d'autres traitements.
Voilà, j'allais vous demander, elle demande s'il y a d'autres alternatives, si elle peut échapper à l'opération, c'est le
si
cas.
Si la rupture est partielle et qu'on pense qu'elle va gagner en mobilité, la kinésithérapie peut suffire, mais là, c'est le chirurgien orthopédique qui vous permet de prendre du temps et d'attendre, mais pas trop longtemps, car plus vous temporisez et plus vous attendez, moins les résultats seront bons en cas d'opération. Donc, je vous invite à aller consulter un spécialiste à ce moment-là.
Très bien, merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Christiane, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Jean Cottreau, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Avec plaisir, vous êtes psychiatre honoraire des hôpitaux et ancien chargé de cours à l'Université de Lyon. Vous êtes également l'auteur du livre Sortir des émotions négatives qui a été publié donc aux éditions Odile Jacob. Alors docteur, on va tenter cet après-midi de sortir de nos émotions négatives, comme le dit si bien votre livre. Une grosse mission, hein, parce que depuis un an, on est nombreux à broyer du noir quand même. Je dis noyer du noir, peut-être ça veut dire quelque chose, vous allez nous dire. Mais c'est, pour commencer, est-ce qu'on peut reprendre à la base, sans parler de négatif ou positif, c'est quoi concrètement une émotion ?
Une émotion, c'est une réponse qui est à la fois physiologique et mentale et comportementale à un événement interne ou externe et par quelqu'un qui vit intensément quelque chose pendant une très très brève période, 15 secondes, les émotions primaires, ce qu'on appelle les émotions primaires, sont des émotions qui sont câblées, qui sont dans c'est l'ADN de l'émotion, et c'est des réponses physiologiques qui ont leur utilité, mais qui peuvent dépasser leur utilité. Alors les principales émotions, il y en a 5, hein, c'est la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère, et on les retrouve très fréquemment dans l'expression, mais elles ont des fonctions. C'est des émotions que la colère peut préparer à l'action quand on est attaqué. La joie, c'est ce qui prépare finalement à l'enthousiasme et à la création.
Oui.
La peur, ça nous permet d'éviter. On dit que l'évolution naturelle favorise les gens.
De sauver notre peau, hein, c'est
exactement.
Ça
Exactement. Les gens anxieux, finalement, sauvent leur peau. Hein. Ils sont dans la claustration actuellement, alors que les gens qui sont un peu moins intimidés vont prendre des risques. Donc, ça a une fonction.
Et on entend parfois que l'émotion nous pend aux tripes. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les émotions et notre tube digestif ou est-ce que c'est juste une façon de parler ?
C'est une façon de parler, mais c'est une réalité parce que les émotions atteignent le système neurovégétatif. Donc, le rythme cardiaque, la respiration, la sudation sont des reflets de l'émotion. Le diamètre pupillaire aussi, c'est le principe du polygraphe pour détecter les émotions en fonction de mots inducteurs. Donc on est réellement dans une réponse physiologique profonde, mais très, très brève et très intense pour les émotions primaires, qui est le premier groupe d'émotions. Les émotions sociales, comme le ressentiment, la jalousie, etc., c'est encore un autre niveau de l'émotion.
On dit que les émotions, parfois, peuvent se lire sur le visage. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors en ce moment, on est un peu tous masqués, c'est peut-être un peu plus difficile, mais réellement, on les voit, on peut les voir, les émotions.
C'est comme ça qu'on a identifié les émotions primaires par des recherches, c'est-à-dire qu'en montrant des photos, on peut, à travers toutes les cultures, on peut montrer ce qui est transculturel, c'est-à-dire les cinq émotions primaires dont je vous ai parlé peuvent être détectées par toutes les populations, même celles qui n'ont jamais eu le cinéma ou la télévision. C'est les travaux d'Ekman, qui sont des travaux classiques, et fondés aussi sur les hypothèses de Darwin, qui avait très très vite perçu le côté intéressant de l'étude des émotions pour la compréhension de l'évolution des espèces, et aussi la notion que les émotions sont des émotions partagées, et que la coopération dans les groupes humains permet une bonne gestion des émotions et une bonne gestion des groupes. Et tout ça passe par le visage. principalement.
Mais justement, certains, on a du mal à lire leurs émotions sur le
comme
visage.
Comme vous, Jimmy, vous êtes un poker face.
Poker face. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on ne ressent rien ou ça veut peut-être juste dire qu'on n'exprime pas nos émotions?
Et il y a des gens qui n'expriment pas d'émotions, mais c'est aussi une façon de discerner la personne qui est dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle émotionnel. On aura quand même tendance à un peu s'en méfier. Donc,
mais c'est dans le contrôle, c'est ça. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas d'émotions du tout. C'est juste qu'ils savent les masquer. Quoi, c'est ça.
Ils savent les masquer, ils ont appris à les masquer. Il y a par exemple...
Enfant, vous étiez comme ça, Jimmy ? Vous ne souriez jamais.
Non, mais c'est horrible, parce que je peux regarder une série où tout le monde rigole. On m'a dit, mais pourquoi tu ne ris pas ? Mais si, je ris, mais intérieurement. Je n'ai pas besoin de rire.
Donc, c'est une modalité de gestion des émotions, mais c'est un apprentissage qui peut être utile, d'ailleurs, dans certaines professions.
Mais il faut se méfier de ces gens-là, vous dites. D'accord, je retiens ça. Et du coup, docteur, est-ce qu'on peut faire la différence scientifiquement, je veux dire, en regardant un visage, si c'est, par exemple, là, Jimmy, il a quand même souris pour une fois, vous voyez.
Est-ce que,
savoir si c'est un faux sourire ou un vrai sourire? On peut voir ça scientifiquement?
C'est très connu, c'est le sourire de Duchenne, qui est le 19e siècle, qui était un anatomiste, qui a défini le vrai sourire. C'est un sourire qui implique les sourcils et les yeux. Donc si c'est un sourire du bas du visage, c'est un faux sourire. Et si c'est un sourire qui implique toute la face...
Il avait les yeux qui pétillaient, alors ça va, je pense
là,
que c'était
il
honnête.
Il a les yeux qui pétillent, on le voit.
C'est pour ça qu'on arrive encore à lire un peu l'expression de joie sur les visages masqués, puisque finalement,
exactement,
on voit ce qui se passe au-dessus, en fait.
Donc, les gens qui ont un sourire de Duchenne et qui sont en train de vous raconter des histoires, vous allez les voir.
Il n'y a que le bas qui sourit.
Et ceux qui sourient vraiment, comme tout à l'heure, vous avez souri vraiment, vous n'avez pas pu...
Avec la petite étincelle dans les yeux même. Hein.
Yeux avec une scintillation aussi.
C'est ça. Avec les outils numériques et technologiques aujourd'hui, est-ce qu'on peut visualiser une émotion? Je ne parle pas forcément du sourire ou de la joie, mais via des techniques d'imagerie par exemple, on peut voir des choses?
Les techniques d'imagerie, il y a des milliers d'études maintenant sur les émotions. C'est un lieu commun. Donc on peut dire que... je ne vais prendre que trois exemples pour simplifier les choses. Vous avez par exemple l'anxiété sociale, qui est la peur du jugement négatif par les autres, on a montré qu'il y avait une réaction des deux amygdales cérébrales, hein, qui sont donc, font partie du système limbique, qui était trop importante chez les personnes qui étaient en contact avec les autres, chez les anxieux sociaux. Et quand on leur faisait une thérapie cognitivo-comportementale ou les antidépresseurs adaptés, il y avait une réduction, hyperactivation amygdalienne. Vous avez aussi le fait que pour les personnes déprimées, ils ne traitent pas l'information positive. Par exemple, les visages heureux, ils les perçoivent moins bien, mais après une thérapie cognitive et comportementale ou les antidépresseurs, ils perçoivent mieux les visages heureux et ils ont une réponse plus importante dans les régions émotionnelles. J'ai fait une étude avec la MEG, la magnéto-encéphalographie, et mes collègues du CERMEP, où on a montré qu'en rappelant en mémoire autobiographique des souvenirs traumatiques chez les personnes qui avaient un stress post-traumatique, ils bloquaient la région de l'insula et aussi la région de Broca, qui est la région du langage. Ce qui fait ce qu'on savait déjà, c'est que finalement, dans le stress post-traumatique, c'est dialoguer avec l'indicible, en réalité. Parce que le boulot du psychiatre, c'est de ramener les souvenirs et de pouvoir les retraiter autrement, alors qu'ils sont incarcérés dans la mémoire autobiographique. Donc tout ça a été étudié très largement. Il y a des milliers d'études. Je vous ai donné que trois exemples. Il y a des milliers d'études depuis une vingtaine d'années.
Et sans passer par des techniques d'IRM, est-ce qu'en voyant une photo ou une simple image, on pourrait savoir si quelqu'un est déprimé? Est-ce qu'on peut lire cette expression?
Absolument.
Vous avez un exemple avec Victor Hugo, je crois.
Alors Victor Hugo, on a une très belle photo de Victor Hugo avec un oméga des sourcils. C'est-à-dire que c'est le front soucieux, plissé et le regard baissé également. Et cet oméga des sourcils est pathognomonique d'une dépression grave mélancolique. Donc, au niveau clinique, j'ai toujours dit à mes étudiants, si vous voyez ça, vous hospitalisez immédiatement le patient.
C'est quoi un oméga des sourcils là? Ça veut dire quoi que...
C'est le front soucieux plissé qui fait un oméga. Comme ça.
La vague, là.
Vous êtes en train de le faire. Là, c'est parfait.
Attention, Jimmy.
Voilà, donc ça, c'est l'oméga.
Quand ça devient stable et qu'on ne se déride pas. Hein, c'est un front soucieux, non déridé pendant longtemps. Et on voit très bien Victor Hugo à le regard baissé. Donc il avait un trouble bipolaire et il faisait des phases cyclothymiques qui vont souvent avec le génie. Et il avait des phases sombres comme Churchill. Et donc à ce moment-là, la photo est tout à fait pathognomonique. J'ai toujours présenté à mes étudiants en disant... Retenez ce visage, quand vous le verrez en consultation, il faut hospitaliser la personne, il est en risque suicidaire.
J'ai amené toutes les photos de la famille pour faire un diagnostic.
Relâchez l'oméga là sur le front, relâchez l'oméga.
C'est très intéressant.
Il faut que ça ne bouge pas. Si c'est un moment, c'est important.
Si c'est figé, ça reste un moment, là on s'inquiète, on hospitalise. Docteur Cotreau, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez évidemment les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Jean Cottreau. Vous êtes psychiatre honoraire des hôpitaux et ancien chargé de cours à l'Université de Lyon. Vous êtes également l'auteur du livre « Sortir des émotions négatives » publié aux éditions Odile Jacob. Docteur, on va passer du côté obscur des émotions. On va parler des émotions négatives, il y en a. Lesquelles, par exemple, parce que vous nous avez cité quelques-unes primaires, secondaires, mais on parle de quoi quand on parle d'émotions négatives et pourquoi on dit qu'elles sont négatives d'ailleurs?
Elles sont négatives parce qu'elles sont stables et qu'elles témoignent de schémas cognitifs profonds, d'interprétation de la réalité, qui font que les gens vont répéter les mêmes comportements qui sont soit nuisibles à eux-mêmes, soit nuisibles aux autres. Donc dans le livre, j'ai regroupé les émotions en 6 émotions qui sont néfastes pour soi. L'angoisse, la tristesse, la nostalgie, la culpabilité, le regret ou le remords et l'humiliation, ou qui peuvent être contre les autres ou négatives pour les autres, la colère, le mépris, le ressentiment, l'envie, la jalousie et la haine.
Ça résume bien tout ça, c'est vrai, effectivement.
C'est un panorama des émotions, des sentiments humains qui peuvent aboutir à des comportements stables et non pas à des réponses brèves, automatiques, comme dans les émotions primaires. Et qui font partie de troubles de personnalité, souvent, ou de mouvements collectifs, de haine. Donc la dernière partie de mon livre fait état des mouvements collectifs et des émotions collectives et des moyens d'y parer. Mais si on reste au domaine individuel, on peut dire que le problème va être la répétition, la durée, la stabilité d'une humeur haineuse ou de sentiments de jalousie, et dont on peut voir les effets tous les jours dans les mauvaises nouvelles qu'on reçoit. Et le développement de la haine au niveau social se fait, et il peut y avoir des haines inter-individuelles, donc c'est quelque chose qui est très très constant.
Mais du coup, c'est-à-dire qu'on va forcément mal si on ressent ces émotions négatives, ou si c'est temporaire, c'est-à-dire que c'est pas très grave. Comment est-ce qu'on sait, parce que vous parlez par exemple de la colère, on a le droit d'être colérique, on a le droit
ponctuellement,
d'être ponctuellement, ouais, l'anxiété... C'est des émotions qu'on ressent tous à peu près en ce moment, d'ailleurs, non ?
Oui, bien sûr.
On doit être tous inquiets, du coup.
La colère peut être quelque chose de positif. Il peut y avoir des colères collectives qui ont de la valeur pour changer les choses.
On dit qu'il y a des colères saines, d'ailleurs.
Il y a la sainte colère, ce qu'on appelait autrefois la sainte colère, qui change les choses. Mais la personne colérique qui en souffre et qui fait souffrir les autres, c'est quelqu'un qui, répétitivement, va se mettre en colère, qui va perdre ses relations. La colère peut aussi provoquer des troubles cardiovasculaires. Donc, c'est un facteur 8. Pour les problèmes cardiovasculaires graves et les incidents coronariens. Donc, il y a de bonnes raisons de traiter les gens colériques. Les TCC ont montré l'efficacité en apprenant à prendre conscience du début de la colère, en particulier la restriction des masséters, les petits muscles qui sont
au niveau des mâchoires.
Ou les sentiments de mal respirer ou d'accélération cardiaque. Et ensuite, d'essayer de se parler à soi-même, en essayant de dire « attention, c'est mon schéma colérique qui me prend le dessus, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, quelle est la raison ?» Essayer de se relaxer, de mieux respirer, ou de sortir de la situation si on voit qu'il va y avoir une explosion de colère, et d'éviter la situation. Donc la gestion du colérique, c'est très très fréquent comme problème clinique en psychiatrie.
Docteur Cottreau, en ce moment, alors depuis un an, on est tous un petit peu plus ou moins en colère, anxieux, on le comprend bien, il y a quand même une raison, cette crise nous dépasse parfois, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, même en dehors de cette histoire de coronavirus, vous dites qu'à l'époque actuelle, on est peut-être plus... embêté par ces émotions négatives qu'à l'époque, jadis, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quand je remonte, mais est-ce que les temps actuels nous rendent plus toxiques, rendent ces émotions négatives plus toxiques?
Je pense, oui. Honnêtement, je n'ai jamais vu la France dans cet état, pourtant j'ai un âge avancé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une accélération par les médias et par surtout les réseaux sociaux. Donc c'est effrayant ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux.
Et en 1930, ils étaient moins confrontés aux émotions négatives que nous.
La politique française était très brutale dans les années 30. Il y a eu des suicides de politiciens.
Bon, alors à dire en 1850, admettons, je ne sais pas.
C'était l'Empire. J'ai eu des ancêtres exilés sous l'Empire. Bon, pour républicanisme, donc ça n'allait pas si bien. Non, il n'y a pas eu de très. Si on prend l'histoire de France, j'ai toujours connu la France en crise. Mais là, il y a une accélération de la crise par des phénomènes médiatiques. Qui ont un effet disproportionné par rapport aux problèmes réels. Quand on voit l'épidémie, elle n'est quand même pas si grave si on compare à 1919 et à l'épidémie de grippe espagnole. On est très très loin derrière, avec 200 millions de morts à l'époque.
Mais il n'y avait pas Twitter.
200 000 en France. Ouais. Donc, mais ce qu'il y a, il y a une accélération, c'est-à-dire qu'on passe de l'illusion de contrôle, on pense que la société est bien tout sous contrôle, c'est faux. Il y a toujours du désordre partout, et là on vit le désordre. Donc l'anxiété éclate.
Mais justement, elle éclate, cette anxiété, mais vous dites dans votre livre, quelque chose de positif, c'est qu'on peut devenir son propre thérapeute face à ce type d'émotion négative. Alors comment est-ce qu'on fait pour être son propre thérapeute d'une émotion de type anxieuse?
Alors donc, ce que je propose dans l'ouvrage, c'est un programme d'autogestion des émotions négatives. C'est pas haine, je n'ai pas choisi ce mot au hasard, parce que la haine est quand même un problème grave. C'est-à-dire qu'il y a 8 modules qui permettent de développer l'autocontrôle, c'est de redonner du pouvoir aux gens sur eux-mêmes. Donc, c'est un manuel, finalement, de thérapie cognitive et comportementale que les gens peuvent faire eux-mêmes en apprenant des méthodes de distanciation, de relaxation, de méditation, de restructuration cognitive, de développement de l'affirmation de soi en imagination, les techniques de résolution de problèmes, rechercher ses valeurs personnelles et s'y accrocher, et surtout être capable d'affronter les émotions négatives ou de ne pas éviter un certain nombre de situations et accepter à certains moments d'aller mal pour aller mieux.
Vous savez notamment de l'art de la fugue, hein, je crois. Oui. C'est quoi précisément? Comment on met ça en pratique dans des situations concrètes?
L'art de la fugue, c'est de savoir rompre les relations toxiques. Je pense qu'une grande partie des problèmes qu'on voit en clinique, c'est des gens qui sont dans des relations toxiques et émotionnellement épuisantes. Et on a souvent une aide à la rupture, ou alors à prendre de la distance par un voyage. Mais alors actuellement,
c'est compliqué.
C'est un peu loupé. Mais bon, il y a la distanciation, ou aussi la distanciation psychologique, c'est-à-dire par la technique du belvédère, c'est observer la vie, ne pas rester sur l'instant présent. Observer la vie avant et observer la vie après. On peut se dire actuellement, bon, ça va mal, mais dans le futur, les choses n'iraient pas mieux quand même. Et on peut anticiper, même les spécialistes américains, sociologues, anticipent une sorte d'âge d'or après, c'est-à-dire qu'il y aura une explosion finalement de joie parce que les gens seront libérés de ça et vont se mettre à être plus créatifs et à faire des choses comme en 1925 où les gens ont connu une belle époque.
Anticiper nos années folles qui viendront peut-être, oui, ça peut nous exactement faire du bien et nous faire sortir de ces choses toxiques, effectivement.
En cas d'anxiété intense, vous proposez une technique, la technique vagale. En quoi ça consiste?
Alors c'est utiliser un vieux réflexe qui est dû à l'anatomiste Valsalvar, 18e siècle. C'est-à-dire, c'est faire une hyperpression abdominale en gonflant son ventre et pendant 5 secondes après une inspiration. Et cette hyperpression a un effet au niveau des récepteurs sinocarotidiens qui sont dans la carotide et qui entraîne immédiatement un ralentissement cardiaque. Et quand on a une attaque de panique, donc une grosse crise d'anxiété très brutale, c'est un moyen de l'arrêter très rapidement avec 5 ou 6 manœuvres de Valsalva.
Donc, on prend une inspiration.
Il faut gonfler le ventre, donc il faut abaisser le diaphragme, gonfler le ventre, maintenir 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, attendre qu'une sensation de chaleur apparaisse, et ça entraîne un ralentissement cardiaque, et immédiatement, on est déjà un peu mieux, mais quand il y a une grosse attaque de panique, il faut faire la manœuvre 5 ou 6 fois.
C'est un truc c'est ce qui marche pratique plus vite. Et ça a l'air effectivement très efficace.
En yoga, on appelle ça le kumbhak. C'est des spécialistes du yoga. Mais c'était décrit par Valsalva et repris en TCC pour traiter les attaques de panique. C'est une des méthodes les plus efficaces pour arrêter une attaque de panique.
Docteur Cotreau, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bon, l'anglais, on y reviendra. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Jean Cotreau. Je rappelle que vous êtes psychiatre honoraire des hôpitaux et ancien chargé de cours à l'Université de Lyon. On va terminer, docteur, avec les émotions positives. Là, on parle de quoi? C'est tout ce qui va bien, qui pourrait aller mieux dans notre vie, c'est ça?
C'est ça. L'idée de la psychologie positive, c'est qu'il faut travailler sur les sentiments positifs, les émotions positives, le bonheur, l'optimisme, sur les traits de caractère positifs. Et il y en a un certain nombre, comme la sagesse, le courage, l'humanité, la modération, la transcendance, le sens de la justice. Et les institutions positives, en particulier l'éducation. Donc c'est plutôt une optique de prévention en inculquant aux gens des attitudes positives et pro-sociales et qui leur faciliteront la vie et la vie des autres.
Mais ça veut dire quoi? C'est lorsque je pense à une émotion positive, si je pense à la joie, tout d'un coup ça va aller mieux, je vais être plus joyeux. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se créer dans ma tête?
Ah, il va se créer quelque chose dans la tête et il va se créer quelque chose dans les actes. Je crois que l'émotion joie entraîne une activité, c'est une émotion active. Donc ça peut entraîner une cascade d'activités qui elles-mêmes vont entraîner du plaisir, de la joie, et à nouveau, donc c'est un système, une boucle positive. C'est entrer dans une boucle positive, la joie. Et donc il faut que la joie demeure, comme disait Jean-Sébastien Bach, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais quelqu'un qui a des actions positives et qui reçoit un feedback positif des autres, il va aller mieux, c'est une évidence.
Mais en quoi ça peut apporter quelque chose dans la gestion de nos émotions négatives, pour le coup, de tout miser finalement sur la sagesse, l'éducation, enfin tout ce que vous venez de citer.
C'est-à-dire que l'idée de la psychologie positive, c'est utiliser ce que vous avez de bien en vous.
Mais c'est la méthode Coué un peu. Hein. On dit, je me persuade que tout va bien, parce que si ça va mal, ça va mal. Quoi. Je
non, veux dire, non,
c'est
non,
difficile
non, parce que,
d'aller chercher du bon.
Bah oui, imaginons, prenons un restaurateur. Son restaurant est fermé, il a peut-être des dettes, il n'y a pas de perspective, il y a les terrasses qui vont rouvrir, mais il pleut en ce moment. On n'est pas sûr que les Français seront tous au rendez-vous. Comment est-ce que lui peut se dire que ça va aller bien alors que ça va mal?
Il a peut-être des enfants en bonne santé à la maison, il faut tout miser sur ça, j'en sais rien.
C'est-à-dire qu'il peut se dire aussi que dans tout problème, il y a une solution. Et que, il peut rebondir aussi. Et il peut aussi faire un autre métier, éventuellement. Il peut utiliser une autre filière, je ne sais pas. On est dans le pratique, là. Mmh. Mais il y a des personnes qui, dans n'importe quelle situation désespérée, vont abandonner, et d'autres qui vont se maintenir, qui vont rebondir. Donc, il faut se dire que la crise aura une fin, de toute manière. Et qu'à ce moment-là, ça peut être une occasion de rebondir ou éventuellement même de changer de métier si ça va moins bien. C'est dans une branche que dans une autre. Ça peut être aussi très salutaire pour quelqu'un de changer de branche. Mmh. Donc l'optimisme, comme disait Churchill, c'est aller d'échec en échec en conservant toujours le même enthousiasme. Et Churchill cumulait une addiction au tabac, à l'alcool, un trouble bipolaire une guerre mondiale.
On n'a pas grand-chose, on a l'impression.
Il avait de fortes chances de la perdre. Il s'est trouvé que l'aviation allemande n'a pas été capable d'abattre Londres, c'est tout. Et il a eu de la chance et s'en est sorti, il en a sorti son pays. Mais ça ne pouvait pas être pire.
Voilà, il faut se mettre dans la peau de Churchill pour le restaurateur anonyme.
C'est-à-dire que
vous avez décrit.
Effectivement, il faut se dire qu'à un moment, il y aura une solution. Et on est quand même dans un pays où on aide les gens qui sont un peu dans la débine. Et on n'est pas un pays qui les abandonne aussi. Il y a quand même quelque chose de positif là-dedans.
Vous avez cité également la sagesse. Ça pourrait avoir un impact sur nos émotions négatives. Je crois même que les personnes pieuses, attachées à une croyance ou une religion, elles sont davantage protégées de la dépression, par exemple.
Oui, il y a beaucoup de travaux. Il y a une méta-analyse que je cite dans le livre qui montre que les personnes, non seulement pieuses, mais les personnes qui ont une forme de spiritualité qui n'est pas forcément la religion, qui ont des capacités d'interaction avec les autres ou des capacités de régulation des émotions supérieures à un groupe qui n'a pas ces mêmes capacités, vont avoir moins de problèmes physiques et moins de problèmes psychiques aussi. Et c'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Donc l'action positive qui découle de sentiments de ce type est quelque chose qui maintient en bonne santé.
Alors une autre protection contre les émotions négatives, c'est la force de caractère. Alors là, on ne parle pas tout simplement de ceux qui ont du caractère, c'est différent ça.
C'est complètement différent. Les forces du caractère, c'est essentiellement, donc comme je vous l'ai dit, la sagesse, le courage. Le courage, ce n'est pas forcément avoir du caractère. Il y a aussi l'amour de l'étude, il y a également l'optimisme, la créativité, sont des forces du caractère. Et vous avez l'humanité aussi, est une force du caractère. Et ce sont des gens qui sont plutôt gentils, doux, agréables. Mmh. Mais on n'a pas toutes les qualités en même temps. Donc on a des systèmes qui permettent d'évaluer les forces du caractère et qui vous disent, bâtissez là-dessus. Donc il y a un questionnaire qui est celui de Peterson, qu'on trouve sur Internet, qui permet d'évaluer ses forces du caractère.
Et vous dites que ces forces du caractère, on devrait finalement presque les apprendre dès l'école et les cultiver, et ça nous aiderait peut-être à sortir de continuer à faire des adultes négatifs, etc.
C'est-à-dire qu'il faut repérer les propres forces de caractère qui sont en partie innées, d'ailleurs, et travailler là-dessus. Le questionnaire a l'avantage de vous dire ce que vous êtes, et continuer avec ça. Et essayer de bâtir là-dessus, c'est là-dessus que vous édifierez une vie positive et intéressante.
Dans certains pays, il y a des cours d'empathie à l'école. Comment est-ce qu'en France, nous, les parents, on pourrait apprendre l'empathie à nos enfants ?
Eh bien, il faudrait une formation des parents à apprendre aux enfants à ne pas entrer dans des conflits ou qu'il pense résoudre uniquement par l'agressivité. C'est-à-dire leur apprendre à se mettre à prendre la perspective de la victime. Donc là, dans le livre, je montre comment on peut le faire avec des enfants très jeunes. Mais il y a des études qui montrent, que celle de, en particulier de Scott, qui montrent que la formation des parents prévient chez des enfants difficiles à risque, qui risquent de développer des comportements antisociaux, comment ça prévient de tels comportements avec des études de cohorte, une étude qui est tout à fait positive. Mais alors c'est un investissement, ça marche ouais. mieux que la thérapie de soutien, mais c'est un investissement mais qui n'est pas forcément démesuré. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits aussi au Québec.
Un investissement de temps pour les parents, c'est ça
oui.
que vous voulez dire.
Il faut former les parents à gérer les enfants difficiles pour leur apprendre à gérer les conflits autrement que par la violence.
Mais dès tout petit, vous dites, on peut faire ça chez les tout petits, les enfants, ouais, 2 ans, 3 ans, des choses comme ça.
Peut-être pas à ce niveau-là, mais un peu plus tard. Donc, il y a une belle étude de cohorte anglaise qui a été faite par Scott à cet égard.
Une autre émotion positive liée au bien-être, c'est l'optimisme. Vous en avez déjà un petit peu parlé. On comprend hein, comment finalement ça permet de mieux vivre sa vie, mais comment on peut la cultiver comment on peut cultiver l'optimisme au quotidien? Vous avez des astuces?
Des astuces. Je crois que l'optimiste, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très réaliste. Toutes les études convergent pour dire que les gens pessimistes sont plus proches de la réalité. Ils sont plus sages, mais plus tristes. Alors que les optimistes sont plus fous, mais plus gais. Parce qu'ils ne considèrent que la réalité peut être distordue, modifiée. Ce qu'on leur offre comme réalité n'est pas suffisant. Ils vont plus loin. Ils vont au-delà. Donc actuellement dans la crise, on a une crise de l'optimisme que les gens ont du mal à aller au-delà de l'instant présent. Donc c'est dans ce que je montre dans le livre, que le système PAEN permet peut-être d'aller au-delà si on le fait correctement, c'est-à-dire de se dire c'est un moment, hein, c'est un moment de l'histoire, bon, il y en a eu d'autres, et on peut avancer.
Pour terminer, vous donnez un conseil pour travailler la gratitude, un exercice que vous avez testé sur vos étudiants, oui. C'est de se souvenir des bons parents. Ça consiste en
oui.
quoi ?
C'est quoi ça ?
C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on s'appuie finalement sur les parents et qu'il y a un manque de gratitude dans la société actuellement. C'est évident. Les gens sont d'une ingratitude féroce et reprochent tout à tout le monde tout le temps et sont dans un ressentiment incroyable. Ce que la méditation des bons parents que je propose, c'est une méditation qui cherche à rentrer en contact en imaginant les bons parents qu'on a souvent perdus et comment on était, et leur parler, les remercier et faire preuve de gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont aidés.
On pense à ses vrais parents, c'est ça? On revient à des choses de l'enfance, en fait?
On peut revenir à quelque chose de l'enfance ou avoir de la gratitude par rapport à un enseignant, par rapport à...
Ah oui, etc. Le parent, c'est pas forcément un papa ou une maman.
Oui,
quoi,
ou
c'est ça,
un ancien pilier, ouais. Ça peut être... La gratitude peut diffuser, mais c'est une idée un peu globale en psychologie positive, c'est de développer la gratitude, le sentiment de gratitude, qui est un sentiment positif.
Et qui nous aide à aller mieux? On se sent mieux quand on est reconnaissant?
Il est évident qu'on se sent mieux si on a plus de gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont aidés.
Et donc c'est ainsi de méditation, donc des bons parents expliqués dans votre livre, hein, que je le rappelle, Sortir des émotions négatives aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Dr Cotreau d'avoir été avec nous cet après-midi.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre séquence Les Bobos du quotidien. Focus sur les tiques, ces petites bébêtes qui envahissent la nature dès le printemps. Savez-vous comment éviter de vous faire attaquer lors de vos balades en forêt, par exemple, si cela arrive? Malheureusement, comment retirer une tique sur votre corps en toute sécurité? Notre reporter Valentin Piovesan a été tester vos connaissances sur les tiques et les moyens de les éviter. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
C'est des petites bêtes qui causent des piqûres assez désagréables.
Qui aspirent le sang en fait, mais on les chope principalement dans les bois.
Ça peut être en nature et ça peut être aussi en domicile. En général, il me semble que les tiques poisonnent quand il y a un regroupement important de personnes.
À Paris, il n'y en a pas souvent. Moi je sais que quand j'allais à la campagne, il y en avait, on ne les voit pas forcément.
En général, il plonge sa tête dans la peau. Et puis vous voyez l'arrière du tic qui ressort de la peau, donc là vous pouvez être sûr que c'est un tic.
C'est avec une pince qu'il faut les enlever.
Qui ressemble un petit peu à un V, comme pour enlever les clous. Sauf qu'on insère le corps du tic, on tourne, surtout faut pas tirer. Mais surtout faut que la tête elle sorte. Si la tête elle sort pas, c'est foutu.
Justement. Alors Jimmy, d'abord rappelez-nous les tiques, on les trouve où principalement? Je crois qu'elles sont parfois plus proches de nous qu'on ne le pense. Hein.
Évidemment, on pense toujours aux tiques sur les chemins de randonnée, mais elles se trouvent aussi dans les squares, arborés, et même chez vous, dans votre jardin, enfin quand vous avez un jardin. D'ailleurs, l'an dernier, le confinement était l'occasion de le vérifier. 50% des piqûres de tiques signalées via l'application Signalement Tique se sont produites durant les jardins privés. Bon, en même temps, on était confinés, donc forcément, on
pouvait être que chez soi. Hein, voilà. D'accord. Alors, elles se nichent où précisément dans nos jardins, par exemple, puisque c'est là qu'elles se trouvent aussi, vous avez dit.
Alors, il faut connaître leur mode de vie à ces tiques. Elles adorent deux choses, la chaleur et l'humidité. Et donc, elles vont s'éloigner rarement d'un mètre du sol. Et donc, elles vont être souvent à proximité des herbes et des petites herbes.
Elles ne sautent pas, quoi. Hein.
Exactement. Et des petits arbustes. Elles n'aiment pas beaucoup la lumière. Jamais vous les trouverez en plein soleil. Et donc, elles vont se trouver le plus souvent au ras de votre pelouse.
Alors, si j'avais un jardin et que je décidais de tondre mon gazon, ma pelouse ce week-end, ou alors de me coucher dans l'herbe pour lire un petit bouquin, comment je me protège, Jimmy?
Alors, il existe quelques recommandations que je vais vous proposer. Alors, tout d'abord, vous allez penser naturellement aux répulsifs. Mais ce n'est pas forcément le moyen le plus efficace, car c'est une mesure complémentaire des autres mesures qui ne coûtent pas d'argent, comme par exemple porter des chaussures plutôt fermées, avec des vêtements recouvrants.
Je ne mets pas encore de sandales, alors ça tombe bien.
Non, mais justement, c'est à ce moment-là qu'on va se faire piquer lorsqu'on aura des tongs et des sandales. Et mettez aussi des vêtements couvrants, mais de couleur claire, pas pour une histoire
pourquoi
de mode, mais
vous
pour mieux les repérer, justement, sur la surface des tissus, et éviter évidemment de marcher dans la cambrousse, dans les herbes hautes, les buissons, les branches, et donc privilégier plutôt les chemins balisés. Soyez prudente. Et au retour de la promenade, eh bien, faut inspecter, il faut regarder si on a été piqué.
Mais alors justement, comment on sait une fois qu'on rentre de la promenade, on les trouve où ces tiques? Elles vont être sur mes jambes, sur mes bras, je vais regarder à quel endroit précisément?
Eh bien, de la tête aux pieds, mais vraiment il faut tout regarder. Et puis on n'hésite pas à surveiller notamment au niveau des plis, dans les fesses, hein, notamment des enfants, derrière les oreilles,
mais
sur
les
le cuir
petits,
chevelu.
On les inspecte, parce qu'ils ne savent pas le faire forcément, hein, c'est ça.
Le jour de la balade, et on recommande aussi de faire ça le lendemain, car parfois ça passe
inaperçu. Ça prend du temps après la balade, tout ça. Hein,
mais oui, bon, on s'occupe
d'accord.
comme on peut.
Très bien. Jimmy, comment on l'enlève? Si pour le coup j'en trouve une, j'en sais rien, dans le dos de mon petit garçon, comment je la retire?
Surtout pas avec vos dents.
Avec les dents.
Non, pas avec les dents. Il faut utiliser un tire-tique.
Ouais.
Ça coûte pas cher à la pharmacie. Le pharmacien peut vous montrer parfois.
Il vaut mieux en avoir un chez soi, comme ça.
Exactement. Il y a des vidéos très bien faites. Il faut pas l'arracher. On retire ça comme un tire-bouche. Avec un tire-bouchon, on fait des petits mouvements de traction, rotation.
Oui, pas d'un coup sec comme
exactement.
Ça.
Exactement. Et pas avec la pince à épiler, vous risquez tout simplement de l'éclater et de propager le venin.
Très rapidement, si on a été piqué, quels symptômes on doit surveiller dans les jours ou les semaines qui suivent?
Pas de panique. Le risque de maladie de Lyme, puisque c'est ce qu'on craint,
bah oui.
Il est de moins de 5%, même dans les zones d'endémie de maladie de Lyme et de tique. Donc ça veut dire que ça reste assez rare. Surveillez qu'il n'y ait pas une éruption cutanée dans les 4 semaines qui vont suivre une piqûre de tique.
Notez le jour où vous avez été piqué,
exactement.
Comme ça vous en rappellerez.
Et s'il y a une éruption, allez consulter votre médecin et dans ce cas-là, il proposera un traitement antibiotique. Mais là, encore une fois, ce n'est pas systématique.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Et donc, pour cette dernière séquence de l'émission, c'est comme tous les jours, Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on a une question de Marine que le docteur Jimmy Mohamed va se faire un plaisir de nous lire.
Évidemment. On m'a dit qu'être enceinte augmentait la libido, mais moi, c'est tout l'inverse. Ça me dérange de faire l'amour alors que j'ai mon bébé dans mon ventre. Et du coup, ça me stoppe, on peut la comprendre. Je jalouse un peu mes amis là-dessus. Que faire?
Petit commentaire personnel au milieu.
Mais c'est
je n'avais pas demandé tant, Jimmy.
Non mais je la soutiens, non mais c'est pour dire que chacun fait comme il veut et qu'il n'y a pas de règles, c'est pas sous prétexte qu'on est enceinte
on
qu'on doit avoir des rapports sexuels.
Hein,
non mais on n'a pas à culpabiliser d'avoir envie ou ne pas avoir envie d'avoir des rapports sexuels quand on est enceinte, non?
Absolument, sauf qu'elle ne culpabilise pas, elle a envie ses copines. Donc,
ah oui,
vous n'aviez pas vu la main.
Mais si, elle dit que ça la dérange de faire l'amour.
Oui,
non,
ça,
mais
ça
jalouse
la dérange,
ses copines.
Mais elle jalouse les copines qui, elles, ne sont pas encombrées de ça. En fait, c'est
plus complexe.
Ah oui, je suis très primaire, désolé.
Non, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont deux positions très légitimes. La position donc de Marine, c'est une position effectivement de se dire qu'elle est toute à sa maternité et que toute à sa maternité, elle a renoncé d'une certaine manière à sa fonction de femme et de femme érotisée et de femme en expression pleine et libérée de sa sexualité pour être toute à sa maternité parce que son bébé étant là, il est entre lui, elle et son partenaire. Et qu'être trop sexuellement active, c'est faire rentrer dans une sexualité de façon presque incestuelle cet enfant au milieu de ce couple. Donc on comprend très bien que pour nombre de femmes dont Marine fait partie, ce soit difficile d'envisager de la sexualité à ce moment-là. Néanmoins, il y a une autre tranche de population, de femmes qui, elles, au contraire, ont une libido décuplée. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. C'est au-delà de la notion du bain hormonal dans lequel elles se trouvent, puisque si c'était simplement une histoire de bain hormonal, ça servirait tout le monde.
Toutes les femmes seraient gâtées.
Exactement. Mais en réalité, c'est parce qu'au moment où une femme est enceinte, généralement, c'est surtout vrai, j'allais dire, dans le trimestre du milieu. Hein, parce que le premier trimestre, il y a une appropriation de la grossesse. Et le dernier trimestre, il y a
faire
avec un ventre qui est devenu de plus en plus pesant. Mais au milieu, il y a une sorte d'état de grâce parce qu'il y a le sentiment très officiel de son tout pouvoir. C'est-à-dire, j'ai maîtrisé la situation nouvelle. Je suis officiellement reconnue comme étant Dieu, puisque je crée de l'humain, en quelque sorte. Donc, je suis toute puissante. Et puis, avec un sentiment d'être une intouchable, enfin, intouchable au sens de la dangerosité que représenterait le monde, la vie, les autres, et d'avoir cette compétence merveilleuse. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, le désir, on voit qu'il s'appuie sur une idée de valeur de soi et de possible de soi. Donc, pendant le temps de la grossesse, une femme se sentant toute forte, toute merveilleuse et puissante à cet état-là, tout d'un coup décuple son désir, non pas pour, j'allais dire, refaire des bébés, c'est vraiment pour témoigner de son pouvoir.
Alors elle ne nous dit pas, Marine, à quel stade de la grossesse elle est peut-être pas encore dans cette lune de miel que vous décrivez. En tout cas, ce qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est ça qui l'inquiète, mais que bébé n'en saura rien si elle y arrivait. Une fois de plus, on va le répéter, le bébé ne risque rien d'un point de vue technique, on va
Alors,
dire.
Alors, il n'en saura rien et il ne risque rien, puisque nous ne sommes pas du tout dans le même lieu, hein, et même si on a envie de voir son partenaire avec un pénis merveilleux, il ne restera que dans la zone vaginale, évidemment. Et puis, il y a une porte scellée entre les deux parties. Ne mélangeons pas tout, mais c'est vrai, vous avez raison de le préciser, puisque les femmes ont une difficulté à, même si elles savent intellectuellement comment elles sont faites physiologiquement, il y a des confusions psychologiques et des peurs, évidemment. C'est vrai aussi chez l'homme qui a du peur. Du coup, parfois, une inquiétude à pénétrer une femme enceinte.
Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? De se masturber, tout simplement, non? Pour l'entre-deux?
Jimmy, il est pratique. Hein, alors, après tout, on trouve une solution.
Elle semble ambivalente, donc autant
non, mais
début de...
Je n'ai pas le sentiment que ce soit le pénis lui-même qui soit une problématique, mais plus une liberté de sexualité, parce que dans le cadre de la masturbation, elle pourrait avoir le sentiment justement d'être avec elle-même et elle-même seule, enfin, elle-même, sans partenaire, mais du coup, elle est son bébé. Et donc, du coup, ça ne lui convient pas
plus. Ah ouais, dit comme ça paraît encore plus glauque.
C'est pas terrible non plus. Donc, vous voyez, tout est une question de fantasme et de projection fantasmatique. Bien évidemment que techniquement, il n'y a non seulement aucun problème. Deux, on stimule d'ailleurs tout le système.
Aucune contre-indication médicale non plus.
Aucune.
Et ça peut aider d'ailleurs à maturer un peu le col en fin de grossesse, hein, pour déclencher un peu l'accouchement.
C'est l'astuce du docteur.
Voilà.
Mohamed.
Et puis aussi, ça stimule tout le système nerveux, y compris celui de l'enfant. Donc jusque-là, tout va très bien. Une maman qui se surveillerait et qui se mettrait sous un globe au fromage ne met pas en plus grande sécurité son enfant, bien au contraire.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine Blanc, pour tous ces conseils. Et donc, je vous dis à demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, où est-ce que vous nous entraînez, Stéphane?
C'est dans heureuse entremetteuse. Mais oui, ça va être un peu licencieux. Hein. Alors, ah oui, Marguerite Gourdan, qui avait une maison de tolérance au XVIIIe siècle. Oui, Madame Claude. Madame Claude, vous savez, qui a bien servi la République.
Oui.
Et puis, vous avez trouvé une autre entremetteuse, mais je vois,
ben oui,
c'est chercher l'erreur, qu'est-ce qu'elle fait?
Et
là,
Karine Le Marchand, c'est une entremetteuse.
Oh,
aussi,
oui, l'amour est dans le, oui,
l'amour est dans le four,
dans le pré.
En toute égalité, s'il vous plaît.
Excusez-moi. Oui. Non, mais j'aime bien cette émission. Oui. Donc, bon, bref,
peu importe. Oui, ça va être une de vos préférées, je pense.
Très bien. Je serai à l'écoute, évidemment. Ça m'intéresse fortement. Et Jimmy aussi, d'ailleurs. Allez, on reste avec vous. Et vous aussi qui nous écoutez, restez sur Europe 1.